Alors, bonjour et bienvenue à cette deuxième partie de notre série sur le calvinisme. Aujourd'hui, on poursuit sur notre lancée de la dernière fois et on va encore établir certaines bases aujourd'hui. Et avant de commencer, pourtant, j'aimerais regarder ensemble une question qu'on pourrait me pose. Alors, évidemment, le titre de la série, c'est Que penser du calvinisme, hein, vers une évaluation objective. Alors, les enjeux du calvinisme, peut-être quelqu'un pourrait me dire, mais Patrice, pourquoi divises-tu les croyants en mettant l'emphase sur le calvinisme? Hein? Nous sommes. Ma réponse, j'ai deux choses, deux aspects à ma réponse. Premièrement, nous sommes déjà divisés au sujet du calvinisme. Et deuxièmement, les enjeux sont trop importants pour être gardés sous silence. Les enjeux sont trop importants pour être gardés sous silence. Et ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Il faut comprendre l'importance des enjeux. Imaginez-vous qu'un couple se promène dans un parc de New York. Ils se promènent, main dans la main, ils se promènent, le temps est beau, c'est doux, plein de monde sont dans le parc, les enfants jouent, on entend les oiseaux chanter au loin, et puis c'est vraiment agréable, une belle journée dans un parc de New York. Et là, on arrive dans un petit endroit comme ça, et il y a plein de tables d'installer, et c'est sur ces tables, il y a des échiquiers. Un échiquier ici, un échiquier là, et ainsi de suite. Et à la première table, il y a cet homme, un homme de certain âge, qui est assis, seul à la table, et qui joue aux échecs. Il avance une pièce. Il attend. Et là, le couple se met à le regarder, intrigué. Parce qu'il joue, mais il n'y a pas personne. Est-ce qu'il va jouer seul? Mais là, à la grande surprise du couple, il se lève, s'assoit à la chaise de l'opposant. Et regarde l'échiquier, il joue un deuxième coup. Et ainsi de suite, se lève, se rassoit, joue un coup, se relève, se rassoit, joue une autre pièce. À un moment donné, l'homme intrigué, il va lui demander, va demander au joueur, il dit, mais pourquoi est-ce que tu es tout seul? Est-ce que tu voulais un partenaire? Peut-être que je pourrais jouer avec toi. Et l'homme lui dit, non, non, ça va, j'ai l'habitude de jouer seul. Ah oui, pourquoi? Vous n'avez pas de partenaire? Ah non, ce n'est pas la question. C'est que en jouant seul, je m'assure de la victoire. Hein? Je maîtrise, je détermine moi-même toutes les pièces de l'échiquier. Je sais qui va faire quoi sur l'échiquier. Je sais que si aujourd'hui je veux que les blancs perdent, mais les blancs vont perdre. Et si demain je veux que les noirs perdent, mais les noirs vont perdre. Et je suis en maîtrise complète du jeu. Ah, mince. Oui, pourquoi pas. Alors, le couple poursuit son chemin, hein, le long des différentes tables. Et là, il arrive à une genre de série d'une trentaine, quarantaine de tables, les unes après les autres, une file de monde. Et là, derrière chaque personne qui est assise, qui joue, il y a des gens qui attendent en ligne comme pour prendre la place. Et tout du même côté. Mais de ce côté-ci des tables, il y a un homme, seul, qui lui n'a pas de chaise, mais qui se promène. Première personne, il regarde le jeu rapidement, prend une tour et avance la tour. Deuxième table, prend une pièce et l'avance. Troisième, quatrième, cinquième, dixième, vingtième, trentième, quarantième table. Et puis il recommence. Il revient à la première. Il fait tout. Et là, le couple intrigué attend et s'installe à une table pas loin de là. Ils sortent leur lunch, ils commencent à manger. Et là, ils regardent ce qui se passe et à chaque fois, l'homme est victorieux. Le maître d'échecs gagne toutes les parties. 40, 80, 120, ça n'arrête pas. 240. Toutes les parties, il les gagne et il les gagne d'une manière magistrale. Mais là, avez-vous remarqué que les deux joueurs, au bilan, c'est la même chose. Les deux gagnent toutes leurs parties. Le vieil homme, qui est seul à sa table, va gagner toutes les parties. Et le maître, lui, va aussi gagner toutes les parties. Mais quel a le plus d'honneur dans ces victoires, dites-moi? Quel est le plus glorieux? Celui qui maîtrise toutes les pièces de l'échiquier ou celui qui ne maîtrise pas les adversaires, ne détermine pas ce que les adversaires vont faire, mais il joue et il gagne, peu importe ce que les adversaires fassent. Peu importe ce qu'ils font. OK? Donc, c'est vraiment important de réaliser que l'enjeu, hein, que les enjeux de concernant notre série, ce n'est pas, hein, c'est pas peu dire, c'est vraiment qui est ce Dieu qui règne sur l'univers. C'est ça l'enjeu. Hein? Qui est ce Dieu qui règne sur l'univers? Qui est ce Créateur? De quel genre de Dieu est-ce? De quel genre de Dieu parle-t-on? Hein? Et ça, c'est vraiment au cœur de l'enjeu. D'ailleurs, hein, plusieurs calvinistes, malheureusement, vont dénaturer les théologies qui ne sont pas calvinistes en affirmant qu'elles sont un centrées sur l'homme, qu'elles sont humanistes, qu'elles honorent moins Dieu ou qu'elles sont non bibliques et qu'elles ne veulent que libérer ou émanciper l'homme. Moi, je vais vous dire quelque chose. Moi, je vais vous dire que, en tant que non calviniste, je vais vous dire que j'en ai rien à faire. Hein, d'une théologie qui est centrée sur l'homme. Hein. Nous, ce qu'on veut, là, c'est les non-calvinistes évangéliques embrassent les libéralistes pour quatre raisons. Premièrement, ils croient qu'on le voit partout dans les Écritures. Hein? Quand les prophètes ou quand Moïse ou Dieu par Moïse dit « Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. » Hein? Quand Dieu, dans Deutéronome 30, dit à l'homme hein, que le commandement que je te donne aujourd'hui n'est pas au-dessus de tes forces. Hein? Voici, Dieu va dire, je place devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Ben, nous, on pense que ces offres-là sont légitimes, que Dieu n'est pas menteur, que Dieu n'est pas malhonnête, que Dieu n'est pas un arnaqueur. Hein? Dieu est honnête. Dieu, quand il parle, c'est ce qu'il dit et c'est ce qui est vrai. Imaginez-vous quand Jésus va dire, en parlant de Jérusalem, hein, Jérusalem, il va se lamenter sur Jérusalem en disant, combien de fois j'ai voulu hein, faire venir à moi tes enfants, attirer tes enfants, et vous ne l'avez pas voulu. Jésus, es-tu malhonnête quand il dit ça? Jésus, es-tu rempli de malhonnêteté? Pourtant, la Bible nous dit que Jésus, hein, c'est lui qui, dans la bouche duquel il n'y a pas de fraude. Il n'est pas malhonnête, Jésus, quand il parle. Jamais. Jamais. Alors, c'est pour ça, mes amis, que, hein, comme la plupart des non-calvinistes évangéliques, nous n'avons aucun intérêt pour une théologie qui est centrée sur l'homme. Nous sommes intéressés à adorer un Dieu qui est vraiment bon, qui est vraiment sans reproche quant au mal moral et au péché. Et donc, dans notre série, on veut établir justement que le calvinisme n'est pas viable hein, selon quatre critères de théologie. Les quatre critères sont les suivants. Premièrement, le premier critère le plus important, on a dit la norme qui n'était pas elle-même sujette à une norme, donc les Écritures. Ensuite, la norme qui, elle, est sujette à une norme, la tradition, la raison, puis finalement, l'expérience. Et notre but dans cette série, c'est de démontrer, hein, autant que ça nous est possible, selon les Écritures, la tradition, la raison, l'expérience, que le christianisme n'est pas viable. Mais avant de poursuivre, on aimerait ça, hein, que le calvinisme n'est pas viable. Mais après ça, on a encore quelques débroussaillages à faire. Quelques débroussaillages. Vous savez, c'est quoi? Hein? Avant ça, on a un peu de débroussaillage à faire. Hein? Il faut... vous savez, c'est quoi le débroussaillage? On arrive sur un terrain, il y a des zones, il y a des arbustes, il y a toutes sortes de branchages, des pierres, des scies, des déchets, toutes sortes d'affaires. On veut débroussailler, on veut ôter tout ce qui les détritus, tout ce qui est là pour clairer le terrain, pour qu'on puisse vraiment bien s'installer et faire ce qu'on a à faire. Et donc, et pourquoi c'est important? Parce que trop souvent, hein, on prend des raccourcis. malheureusement, avec notre foi, on va prendre des raccourcis, on va prendre des dictons qui sonnent bien, on va commencer à s'éloigner des Écritures pour rentrer dans un genre d'idée hein, sur ce que c'est le christianisme, sans prendre le temps de réfléchir à ce qu'on dit. Et j'aimerais ça qu'on puisse justement prendre le temps de réfléchir aux mots qu'on utilise, particulièrement en relation avec cette question-là du calvinisme. Et parmi les mots qu'on entend souvent quand on parle de la souveraineté de Dieu et du libre arbitre des hommes, on va souvent entendre les mots « Ah ben c'est un mystère, c'est un paradoxe, hein? On ne peut pas savoir. » Hein, la Bible affirme les deux, mais on ne peut pas, et souvent, c'est dans un contexte où c'est les calvinistes qui vont affirmer ça, pour finalement dire que c'est Dieu est souverain sur tout, et finalement, l'homme n'est absolument pas libre. Mais j'aimerais ça qu'on s'arrête justement sur c'est quoi un mystère, qu'est-ce qu'un paradoxe, et qu'est-ce qu'une contradiction. OK, donc, un mystère, on va commencer avec le mystère. La différence entre un mystère et un paradoxe, un mystère, c'est quelque chose qui est incompréhensible pour nous. Incompréhensible pour nous ou quelque chose qui n'a pas encore été révélé. Deutéronome 29, 29, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Eh bien, il faut qu'on comprenne hein, qu'un mystère, c'est quelque chose qui soit qui est absolument incompréhensible pour nous, par exemple, la Sainte Trinité. Dieu est un Dieu, trois personnes. C'est un mystère. C'est correct. Il y a des mystères. Dieu est Dieu. Hein, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées, aussi haut que le ciel est au-dessus de la terre. Ses pensées sont élevées au-dessus des nôtres. Alors, nécessairement, notre esprit étant si petit et lui, le sien, infini, il va y avoir des choses qu'on ne sera jamais en mesure de comprendre. Alors, c'est mystérieux. Autre chose qui fait partie de l'ordre du mystère, comme dit les Écritures, entre autres dans Éphésiens, Paul va parler du mystère de l'Église, bien, c'est quelque chose qui n'a pas été révélé. Peut-être pas encore, peut-être il sera jamais révélé, peut-être qu'il va être révélé plus tard, mais une chose est sûre, 1 Corinthiens 13 nous parle qu'à ce moment-là, on va le voir comme... Aujourd'hui, on le voit comme dans un miroir. À ce moment-là, on va le voir comme de yeux à yeux. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas voir, parce qu'on est en deçà de l'éternité. Okay? Donc, il y a des choses mystérieuses comme ça, qui sont au-dessus de nous. Alors qu'un paradoxe, mais un paradoxe, c'est quelque chose qui semble être une contradiction. Et on va voir c'est quoi une contradiction dans quelques instants. Hein? C'est seulement à cause des mots utilisés qu'on n'est pas capable de comprendre ce qui est dit. Ou qu'on a la difficulté à comprendre ce qui est dit, mais dès lors qu'on trace une distinction, hein, les paradoxes vont disparaître. Et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques secondes. Si je vous dis, par exemple, une manière, je vais prendre l'exemple des paradoxes et de la façon que les calvinistes s'y prennent pour les résoudre. Par exemple, on peut diminuer la portée de ce qui est dit. Les calvinistes vont souvent dire, bien, tous les humains, et tous les textes qui parlent de tous les humains, donc quand quand Paul va dire, par exemple, que Christ est mort pour tous les hommes, bien, la façon que les calvinistes vont résoudre le paradoxe par rapport à leur théologie et face aux Écritures, bien, ils vont réduire la portée de ce qui est dit en disant, bien, il ne s'agit pas de tous les hommes individuellement, mais de toutes les sortes d'hommes, de toutes les catégories d'hommes, ou de toutes les sortes de personnes. OK? Ça, c'est une façon hein, qu'ils vont résoudre la question du paradoxe. L'autre façon qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont changer la définition du terme. Par exemple, on l'a vu la dernière fois, hein, la liberté et le compatibilisme. La liberté, donc l'être humain est libre, par exemple, dans une situation donnée, il est libre de faire A ou de ne pas faire A. Hein, il est libre, par exemple, je vais au comptoir de la cuisine, je vais dans la cuisine, j'ai soif, j'ai le choix de prendre un verre d'eau ou de ne pas prendre un verre d'eau, je peux prendre un verre de lait ou de ne pas prendre un verre de lait, je peux prendre un café ou de ne pas me faire du café, j'ai le choix de faire ou de ne pas faire. C'est ça l'essence même de la vraie liberté. Le calviniste arrive et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va redéfinir le terme et dire, ben, la liberté, c'est de ne pas être obligé ou de ne pas être forcé de faire quelque chose contre notre volonté. Mais si on désire faire quelque chose, ben on le fait volontairement. Donc, si Dieu détermine ce que je vais désirer, ben il dit, ben on est libre quand même. Okay? Et donc, ils vont redéfinir le terme de cette façon-là. Une autre façon qu'ils vont résoudre les paradoxes, c'est qu'ils vont, par exemple, amener une distinction. Certains calvinistes vont dire que Dieu aime les hommes en général, mais il aime les chrétiens ou les élus d'une façon particulière. Alors, ils établissent une distinction. Et ces façons-là de résoudre les paradoxes sont bonnes. C'est ce qu'il faut faire. Quand on est devant un paradoxe, il faut soit diminuer la portée des mots qui sont utilisés, soit redéfinir les termes, soit établir des distinctions. Il y a différentes stratégies qu'on peut utiliser pour résoudre un paradoxe. Et c'est correct, c'est légitime, et c'est correct qu'ils fassent ça. Tout à fait. Par contre, il y a des fois où est-ce qu'un paradoxe n'est pas résolvable, et dans ce cas-là, ce n'est plus un paradoxe, c'est une contradiction. Parce que rappelez-vous ce qu'on vient de dire, un paradoxe, hein, ça semble être contradictoire. Or, qu'est-ce qu'une contradiction? Bien, une contradiction, c'est ceci. En logique, on va dire que A et non A sont vrais. Ça, c'est l'essence même d'une contradiction. Par exemple, le cercle que vous voyez à l'écran, hein, le cercle est rouge, le cercle n'est pas rouge. C'est une contradiction si ces deux affirmations sont vraies de la même manière et en même temps. Si je dis quelque chose, si je dis de deux choses contradictoires, je dis qu'elles sont vraies de la même manière et en même temps, alors là, on est en présence d'une vraie contradiction. Par exemple, je vous donne un autre exemple. A et non A sont vrais. Fido est un chien. Fido n'est pas un chien. Et donc, si, et là à l'écran, vous avez l'ensemble de tous les chiens. Hein, Fido, il appartient à l'ensemble de tous les chiens ou il n'appartient pas à l'ensemble de tous les chiens. Dans une contradiction, ces deux affirmations sont vraies de la même manière et en même temps. Hein. Ça veut dire qu'on n'est pas en train de parler de Fido le chien, de Fido le toutou, ou de Fido le chien, d'un gars qui s'appellerait Fido, hein, ou de mon téléphone cellulaire. Je parle de la même chose, de la même manière, en même temps. Si j'affirme deux choses qui sont contradictoires, on est en présence d'une contradiction. Si je dis que le bouton y est bleu et que le bouton n'est pas bleu, j'affirme une contradiction. Okay? Donc, si je retourne maintenant ici, et dans le calvinisme, Dieu détermine tout. Il est la cause ultime de tout ce qui se passe dans l'univers. Tous les événements, toutes les actions, toutes les décisions et toutes les émotions. Par définition, quelqu'un qui est la cause d'une situation, par définition, il en est responsable. Or, le péché est un événement, une action ou une décision. Pourtant, le calviniste affirme que Dieu est responsable du péché, mais que Dieu n'est pas responsable du péché. Alors là, on est en présence d'une vraie contradiction. Dieu peut pas déterminer hein, tous les événements, toutes les actions, toutes les décisions, tous les désirs, toutes les émotions. Il ne peut pas tout déterminer, donc être responsable de tout ce qui se passe, et en même temps, de la même manière, dire « ben non, il n'est pas responsable des péchés ». Mais là, non, ça ne marche pas. Là. Il est responsable du péché ou il ne l'est pas. Et donc, ultimement, selon le calviniste, et c'est ça qui fait, je vous disais tantôt qu'un des enjeux, c'est qui est notre Dieu. Est-ce que notre Dieu, oui ou non, est pécheur? Ou est-ce que oui ou non, il est saint? Est-ce que oui ou non, il est juste? Ou est-ce que oui ou non, il est pécheur? Il ne peut pas être les deux en même temps. Il ne peut pas être parfaitement saint. Hein? Dieu dit dans Jean, qui dit, je ne tente personne au mal. Dieu ne peut pas être tenté par le mal, il ne peut pas tenter personne. Oui, mais c'est bien pire que tenter. Il est en train de déterminer que la personne pêche. S'il ne fait pas le moins, il ne fait pas le pire. Donc, hein, il faut clarifier dans notre tête la différence entre un paradoxe, une contradiction, un mystère. Il y a des mystères dans la foi chrétienne. Il y en a des mystères. Dans l'univers, il y a plein de mystères. Comment ça se fait que la lumière agit comme une onde puis comme une particule? C'est mystérieux. C'est pas une contradiction, c'est mystérieux, c'est un genre de paradoxe physique. Comment ça se fait qu'on prend des mystères? Il y en a plein de mystères. Je vous l'ai dit tantôt, c'est un paradoxe, c'est même pas un paradoxe, la lumière, c'est un mystère carrément. Il y a des mystères. La gravité, c'est mystérieux. On est capable d'établir la gravité qui existe entre deux corps célestes. Hein? On est capable d'établir, de calculer la constante gravitationnelle, de savoir que ça dépend de la masse un des corps célestes, hein? Et de l'autre corps céleste divisé par la distance au carré. Ça, c'est la formule, l'équation mathématique de la gravité. On est capable de la calculer, on est capable de l'observer, mais qu'est-ce qui fait qu'entre les deux corps, il y a cette attraction-là? On parle de gravitron, on parle de toutes sortes d'idées, on émet des hypothèses. Qu'est-ce qui fait que les deux s'attirent? C'est un mystère. En physique quantique, il y en a-tu des mystères en physique quantique? Savez-vous que si deux particules quantiques sont entrelacées, si tu fais un spin à une, puis que l'autre, tu l'amènes à des kilomètres, à des centaines de kilomètres, en tout cas mathématiquement, si tu agis sur l'une, instantanément, ça agit sur l'autre. Sans aucune attente, peu importe la distance. Mystère. Tout un mystère. L'entrelacement des particules quantiques. Il y en a des mystères dans la réalité. Faut pas se le cacher. Il y en a dans la théologie, il y en a dans la réalité, il y en a partout, les mystères. Imaginez-vous s'il n'y en aurait pas en Dieu. Dieu dit, les choses cachées m'appartiennent. Alors, faut pas avoir honte des mystères, pourtant, ou avoir peur des mystères. Mais le mystère, ce n'est pas une contradiction. Il n'y a rien qui peut alléger la contradiction de dire Dieu détermine tout, mais il n'est pas responsable du péché. C'est une contradiction puisque le péché fait partie de qu'est-ce qui de l'ensemble de tout. OK? Bon. Une autre chose qu'on veut clarifier, qu'on veut éclaircir, c'est hein, en tant que non-calviniste, est-ce que la réforme n'était pas essentiellement calviniste? Je vous dis que non. Il y a eu une réforme calviniste ou augustinienne, on le dirait. Il y a eu une réforme qui est issue d'Augustin. Hein? Et ça, on parle des luthériens et du calvinisme en général, qu'ils soient des églises réformées ou donc issues pas mal de Calvin et des églises qu'eux autres ont fondées, et des églises qui ont décidé d'adopter le calvinisme comme croyance, comme certaines églises baptistes, comme certains groupes évangéliques. Ont décidé qu'eux autres, hein, ils allaient adopter hein, la tulipe comme croyance fondamentale. On s'appelle la tulipe, c'est quoi? On va le voir tout à l'heure, ce ne sera pas bien long, mais on se rappelle qu'est-ce que c'est. Et donc, mais il y a aussi la tradition chrétienne de la liberté ou du libre arbitre. Et dans ça, ce n'est pas seulement l'être humain qui est libre, c'est Dieu aussi est libre. Il est libre de faire avec son bien ce qu'il veut, c'est-à-dire il est libre de donner à l'être humain la liberté. Parce que c'est jamais. Les chrétiens qui croient au libre arbitre de l'être humain opposent jamais libre arbitre à souveraineté. Jamais. Pour eux, jamais Dieu cesse d'être souverain. En aucun cas, d'aucune façon, d'aucune manière. Si l'être humain est libre, c'est que Dieu a dû lui déléguer cette liberté-là et Dieu a choisi de dire, bien, je ne suis pas le seul à prendre des décisions dans l'univers, je vais créer des créatures, je vais mettre au monde des créatures qui vont aussi prendre des décisions, c'est-à-dire, et je vais les laisser faire. Ils vont avoir une liberté relative. Ils ne pourront pas tout faire. Il n'y a pas une créature qui est omnipotente. C'est impossible de tout faire. Même Dieu ne peut pas tout faire. On est tous contraints par les caractéristiques de notre nature. Dieu est contraint par les caractéristiques de sa nature, par les perfections de sa nature. Ça nous dit dans Hébreux 6 qu'il est impossible que Dieu n'a pas la capacité, littéralement, Dieu n'a pas la capacité de mentir. Mais je pensais que Dieu était capable de tout faire. Pas capable de mentir. Pas capable de se renier. Pas capable de faire plein de choses. Est-ce que c'est une lacune chez Dieu de ne pas être capable de mentir? Non, c'est une perfection. Dieu, tu sais, est-ce que c'est une lacune pour un père de famille hein, qui a sa petite fille dans ses bras, son petit bébé de 2 mois, sa petite fille de 2 mois, puis qui est en train de la cajoler? Est-ce que c'est une lacune de ce père-là de ne pas pouvoir faire de mal à son enfant? C'est pas une lacune. Est-ce qu'il a la capacité physique de faire du mal? Certainement. Il y a plein de cœurs qui font du mal à des enfants de 2-3 mois. Mais à ce papa-là en particulier, il a sa petite fille dans ses bras, il en prend soin, il est incapable de faire du mal à cet enfant-là, tellement il l'aime. C'est la prunelle de ses yeux. Est-ce que c'est un défaut, cet homme-là, de ne pas pouvoir faire de mal à cet enfant-là? Absolument pas, ce n'est pas un défaut, c'est une grande qualité. Okay? Donc, c'est important de comprendre que quand on considère Dieu dans sa majesté, dans sa grandeur, c'est pas parce que, vous savez, vous avez déjà vu une table de son? Les tables où est-ce que le son, les consoles de son, là. Tu sais, si tu prends tous les niveaux, là, tu mets tout ça au max, puis tous les ajustements de son, tu mets tout ça au max. Tous les ajustements, tous les pitons que tu vois, tu mets ça au max. Hein? Est-ce que ton son va être meilleur? C'est pas parce que tu mets tous les niveaux à 100% ou au maximum que ton son va être bon. C'est pas parce que tu mets toutes les perfections de Dieu à maximum que Dieu est Dieu. C'est pas le Dieu que, hein, t'sais, que Dieu devient bon. Non, c'est pas pour ça. Non, c'est le Dieu de la Bible, comment il s'est révélé, comment il se fait connaître à l'être humain. C'est ce Dieu-là qui est le vrai Dieu, pas le Dieu de nos idéaux. Hein? Parce que ce qui est parfait pour notre culture peut être imparfait pour notre culture. C'est la pensée de Dieu qu'on doit prendre, c'est pas nos idées à nous. OK? Donc, on retourne sur la tulipe pour comprendre la différence entre... Parce que vous savez, une des idées qui est véhiculée souvent, et là, il n'y a pas seulement les calvinistes qui sont en tort, il y a aussi souvent les arméniens, hein, qui est une école de non-calvinisme, qui est une sorte de non-calvinisme, hein, les arméniens. Mais habituellement, quand on discute de calvinisme, on va parler de calvinistes et de non-calvinistes. Et là, on va parler comme si il y a juste deux équipes. On va parler comme s'il y a juste deux équipes dans la ligue. Il n'y a pas seulement deux équipes dans la ligue. Il y a plusieurs équipes. Hein? Il n'y a pas juste les... Et même des fois, quand on en arrive aux séries éliminatoires, on dirait qu'il y a juste une équipe. En tout cas, dans certains endroits, hein, il y a juste les Canadiens qui comptent. Que ce soit Boston, peu importe, ça ne compte pas. Ça. C'est les Canadiens qui comptent. C'est comme s'il y avait seulement une équipe qui comptait. Et parfois, on écoute la question calviniste arménien, on pense que non, y a-t-il juste une équipe? Y a-t-il juste une pensée? Ou y en a-t-il juste deux, calvinisme et arminianisme? Et j'aimerais ça qu'on fasse la distinction entre les deux pour savoir de quoi on parle. Parce qu'il y a bien plus que deux équipes. On l'a vu tantôt, hein, si je retourne à mon petite image ici, en tant que non-calviniste, il y a les Grecs orthodoxes, il y a les pères de l'Église n'étaient pas calvinistes, les anabaptistes, qui étaient vers l'époque de la Réforme, mais n'étaient pas calvinistes, ils faisaient partie de la Réforme. Tout le reste de la Réforme semi- ou non-augustinienne ont pas suivi Calvin. Et ensuite, il y a eu toutes les autres. On pense de tous les chrétiens qui étaient là avant. Hein? Que ça soit les... voyons, là, les... en tout cas, j'oublie là, les noms de tous les groupes chrétiens qui avaient avant la Réforme, bien, bien avant la Réforme, et qui n'ont jamais cru, hein, à la tulipe. Jamais! C'est une innovation, la tulipe. Et même du temps d'Augustin, plein de choses qu'Augustin a dit, ce sont des innovations. Les pères de l'Église des quatre premiers siècles avant Augustin, jamais ils auraient souscrit à ce qu'Augustin a enseigné à bien des égards. Jamais! Okay. Donc, on retourne à la tulipe, on se rappelle c'est quoi la tulipe, hein? La libération totale de l'être humain, l'élection inconditionnelle, l'expiation limitée de Christ à la croix, la grâce irrésistible, la persévérance des saints. Parfois, on va rencontrer les calvinistes en quatre points. Hein? On va aussi appeler ce quel genre de calvinisme-là, l'amiraldisme du nom de celui qui a été le premier à promouvoir un certain Amiraux, qui a été le premier à promouvoir le calvinisme en quatre points, donc les deux premiers, dépravation totale, élection inconditionnelle, les deux derniers, grâce irrésistible, persévérance des saints. Alors, quand on parle d'un calvinisme en quatre points, on enlève l'expiation limitée, on remplace par une expiation illimitée, et donc ça devient du calvinisme en quatre points. Il y a aussi... Hein, certains vont parler même d'un calviniste en deux points. Il va seulement avoir la dépravation totale et la persévérance des saints. Mais, honnêtement, là, il y a des Arméniens qui croient à la dépravation totale et à la persévérance des saints. Mais dans tous les cas, hein, on croit que l'élection est une question de salut. Tant les calvinistes que les arméniens croient à la libération totale de l'être humain, croient que à la persévérance des saints. Ils ont une différence. Les arméniens croient que celui qui persévère jusqu'à la fin est sauvé. S'il ne persévère pas, il perd son salut. Les calvinistes, pour la plupart des arméniens, il y a des arméniens qui croient à la sécurité éternelle, mais pour la plupart des arméniens, ceux qui croient en tout cas à la perte du salut, ils croient que celui qui persévère jusqu'à la fin va être sauvé. Les calvinistes croient exactement la même chose. Si tu persévères jusqu'à la fin, tu es un élu. Si tu ne persévères pas, ça démontre ta réprobation, ça démontre que tu n'as jamais été un élu. Alors, il n'y a pas de différence en ce terme-là entre les calvinistes et les arméniens. Les deux croient à la dépravation totale. Oups, je suis ici, excusez-moi. Les deux croient à la dépravation totale et les deux croient à la persévérance des saints. Maintenant, quelque chose d'intéressant ici, il y en a qui sont même des calvinistes en un point. Qui vont croire à la sécurité éternelle ou qui vont croire à la sécurité conditionnelle. Ben, conditionnelle, ça ressemble pas mal à ce qu'on vient de dire tantôt. Mais sécurité éternelle, ils croient qu'une personne qui est sauvée, peu importe si elle persévère jusqu'à la fin ou pas, si elle est sauvée, elle est sauvée pour toujours. OK? Et longtemps, j'ai cru que je faisais partie de ce groupe-là. Je croyais à la sécurité éternelle. Je ne croyais pas à la persévérance des saints. Je me suis toujours dit que la question qui départage, c'est toujours ou qu'est-ce qui arrive, non pas de ceux qui persévèrent. Ça, tout le monde s'entend sur que ceux qui persévèrent sont élus ou sont sauvés. Oui, mais qu'est-ce qui arrive de celui qui ne persévère pas? Qui est sauvé, mais qui ne persévère pas? Est-ce qu'il peut, oui ou non, perdre son salut? Alors, la sécurité éternelle dit qu'il ne peut pas perdre son salut. La sécurité conditionnelle dit oui, il peut perdre son salut. Okay? Il est en sécurité, mais conditionnellement à sa persévérance. Alors, excusez-moi, ça c'est ce qui en est de la tulipe. Mais qu'en est-il, mes amis, des non-calvinistes? Comment peut-on résumer les croyances non-calvinistes? J'ai trouvé un acrostiche. Comme il y en a un pour les non-calvinistes, ils utilisent la tulipe. Mais moi, j'en ai trouvé un. J'ai réfléchi longuement. Et celui que j'ai trouvé, c'est le mot grâce. Alors, les non-calvinistes, ou j'appelle les non-calvinismes, parce qu'il y en a plusieurs. Évidemment, si, comme j'ai dit, les arméniens font partie, en quelque sorte, des non-calvinistes. Généralement, on va s'accorder sur, la majorité vont s'accorder sur ce qu'est décrit l'acrostiche suivant, ou l'acronyme, devrais-je dire. On croit « J'ai la grâce universelle et libre de Dieu ». Dieu donne librement et sans contraindre la personne à qui il donne. Dieu veut une vraie relation. R, la race humaine est déchue de la gloire de Dieu. La race est déchue, elle est encline au péché, mais elle n'est pas mauvaise en soi. La nature de l'homme n'est pas mal en soi. Elle est déchue. L'être humain est mort, il est séparé de Dieu. L'être humain a pris une perspective qui est contre Dieu, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, à cause de qui a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme est enclin au mal, parce qu'il a sa propre perspective des choses. Il se met au-dessus de Dieu pour choisir ce qui est bien et mal, souvent. Donc, ce n'est pas sa nature, ce sont ses choix, ce sont ses décisions, ce sont qu'est-ce qui fait qu'il s'oppose à Dieu, oui ou non. Ensuite, A, l'amour universel de Dieu qui aime toute sa création. C, Christ et son œuvre ont une portée universelle. Donc, et là, je ne parle pas seulement de la croix. Et c'est important de comprendre que quand on parle de l'œuvre de Jésus-Christ, on ne parle pas seulement de la croix. On parle de l'incarnation, on parle de la crucifixion, on parle de la résurrection. On parle de l'entier, de toute son œuvre au complet. OK? Ça, ça a une portée universelle. D'ailleurs, l'incarnation est tout aussi importante que la crucifixion. Parce que c'est parce qu'il est devenu être humain qu'il pouvait payer pour les êtres humains. Si Jésus-Christ n'est pas devenu vrai homme, il n'a pas pu payer pour les vrais hommes, pour les vrais humains. Il a dû être humain pour payer pour les êtres humains. Okay? Ensuite, donc, l'acrostiche, qu'est-ce qu'on était rendu? Oui, justement, Christ et son œuvre ont une portée universelle. Finalement, tous on croit à une élection conditionnelle de ceux qui croient. Hein? Les croyants participent à l'élection du Fils. Et l'élection n'est pas une question de salut. Évidemment, Christ est l'élu de Dieu. Est-ce que Christ devait être sauvé d'une quelconque façon? Non. Christ n'a jamais été mort. Christ a toujours été uni au Père dans sa divinité. Il n'a été jamais séparé de Dieu, Jésus-Christ. Okay? Mais il a subi la même nature que nous. Il s'est incarné dans la même nature que nous, faible, sujette à la maladie, mortel, et ainsi de suite. OK? Maintenant, donc, est-ce que la nature de Christ pouvait être mal? Si sa nature était mal, son sacrifice était invalide. Finalement, je vais faire une dernière précision, puis je vais arrêter là-dessus aujourd'hui. C'est la fameuse question que tout bon calviniste va poser, à savoir, oui, mais comment peux-tu dire que ta foi, hein, te sauve? Mais il faut établir une distinction importante dans ça ici. Alors, je vous disais tantôt qu'il fallait souvent établir des distinctions, et c'est une situation importante, hein, de devoir faire ici une distinction. La différence entre une cause et une condition. La cause d'un fait, c'est ce qui produit le fait, c'est ce qui est en est à l'origine de ce fait-là. Okay? Quelque chose qui, quand on parle d'une cause, c'est ce qui produit l'effet, hein, une cause à effet. Donc, une cause va produire un fait. Maintenant, une condition. Une condition, ce n'est pas pareil qu'une cause. Une condition, c'est ce qui doit être présent pour que la cause soit efficace. C'est en présence de tels éléments, hein, que la cause va être efficace. Par exemple, j'arrive dans le bois, hein, je sors mon paquet d'allumettes, c'est parce que là, je veux me faire un feu, j'ai froid, c'est l'hiver. Bon, ma femme et moi, on a froid, on a fait de la raquette, mais là, ça commence à refroidir, puis on veut se réchauffer avant de repartir pour la maison. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on cherche les allumettes, on les sort, puis là, j'essaie de partir un feu. Ça prend trois conditions pour partir un feu. Ça prend de la chaleur, ça prend un combustible, puis ça prend un comburant, l'oxygène. Enlève une de ces conditions-là, il n'y en aura pas de feu. Même si moi, là, effectivement, la cause, j'ai une allumette, j'ai mon paquet d'allumettes, je l'allume, hein? Si la chaleur n'est pas au rendez-vous, si l'oxygène n'est pas au rendez-vous, si le combustible n'est pas au rendez-vous, je n'arriverai pas à l'allumer le feu. Même si j'ai une cause, mon allumette allumée, même si ma cause est là, la flamme qui va enflammer la chose, qui va apporter la chaleur suffisante, normalement. Si les autres conditions ne sont pas présentes, je peux apporter la flamme tant que je voudrais, il n'y a rien qui va se passer. Okay? Par contre, il y a un autre sens au mot condition qui est encore plus important que celui-là. Hein? Et c'est celui-ci. Dans une alliance, hein, dans une alliance, une clause conditionnelle entre deux personnes implique que l'accomplissement de ce à quoi l'un s'est engagé dépend de ce que l'autre est satisfait à son obligation. C'est pour ça que si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Il y a une condition à être respectée pour que Dieu sauve quelqu'un. Et cette condition-là, ce n'est pas l'être humain qui l'exige, c'est Dieu qui l'exige. C'est pour ça que Dieu, hein, il est la seule cause du salut. Il n'y a pas deux, trois causes au salut, là. Il y en a une seule, et c'est Dieu. C'est Dieu qui l'a planifié, c'est Dieu qui l'a mise en œuvre, c'est Jésus-Christ, donc Dieu, qui est venu, qui s'est incarné, c'est Christ qui a payé à la croix, c'est Christ qui. Et donc, c'est le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui applique le salut à celui qui croit. C'est Dieu la seule et unique cause fondamentale du salut. La foi, c'est la condition que Dieu a attachée à la promesse du salut. Si tu crois, tu vas être sauvé. OK? Si tu crois, tu seras sauvé. Et donc, qu'est-ce qui cause le salut? Bien, la cause du salut, c'est ce qui produit le salut, c'est ce qui en est à l'origine. La condition du salut, c'est l'obligation qui incombe à l'être humain pour participer au salut que Dieu a offert à tous les êtres humains. OK? Donc, ça couvre pas mal bien, je pense, hein, tout ce que je voulais voir en guise d'introduction. À la prochaine rencontre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment plonger dans la tulipe. Il va y avoir encore plus de passages bibliques qu'on va regarder ensemble. On va regarder à la lumière des Écritures, de la tradition, de la raison et de la pratique, chacun des points de la tulipe. Que Dieu vous bénisse abondamment.